Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
De Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec aujourd'hui Jean-Marie Colombani et Maître Sophie Obadia. Jean-Marie Colombani que vous retrouvez demain 8h dans l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Merci tous les deux d'être là.
Bonjour David.
Ce vendredi matin, on va parler politique, les européennes 2024. Le Rassemblement National s'envole, Renaissance trébuche, Reconquête plonge, l'élection est-elle pliée? Qui peut tirer son épingle du jeu? Je vous pose la question.
Alors, d'abord, on peut pas s'arrêter à un sondage pour dire ce qui va se passer. Il faut toujours prendre cette précaution. Un sondage est une photographie à l'instant T de l'état de l'opinion. On peut pas en déduire beaucoup de choses pour ce qui va vraiment se passer lors du vote. Il y a deux ou trois grandes questions qui se posent à l'occasion de ces élections. D'abord, les élections européennes, traditionnellement, n'emportent jamais de conséquences politiques intérieures. Ça n'est jamais un événement porteur de quelque chose. C'est en général une élection qui est boudée par les électeurs, plus encore que d'autres, donc une forte taux d'abstention. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir si on ne va pas au contraire assister d'abord à une meilleure mobilisation, liée au fait que quand même, il y a la guerre. Et la guerre interpelle directement l'Europe et les enjeux européens. Donc c'est ce que s'ingénie d'ailleurs à rappeler Emmanuel Macron. Est-ce que il y aura ou non cette fois une incidence politique réelle? Et là, ça se joue non pas entre le premier et la liste du président de la République, c'est-à-dire entre Jordan Bardella et le Rassemblement National, dont tout le monde pense qu'ils seront en tête comme la fois précédente. Mais ça se joue plutôt sur le point de savoir si l'opération qui est menée à gauche peut réussir à marginaliser les amis de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, si les offensives de Raphaël Glucksmann ne vont pas réussir finalement à séduire une partie de l'électorat ex de gauche déçu par Emmanuel Macron et redonner crédit à ce qui pourrait être une gauche de gouvernement, redonner crédit. D'ailleurs, on le voit dans la popularité montante de François Hollande. On voit ce mouvement-là. Donc, est-ce que ça peut se produire? À ce moment-là, les élections européennes auront une incidence sur la future présidentielle parce que ça redonnerait vie à une alternative qui ne soit pas le duel de second tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, dont on connaît par avance le résultat.
Sur la popularité montante de François Hollande, on verra à combien s'échange son scooter mis à prix aujourd'hui aux enchères.
Ce sera
un bon indicateur de sa popularité. Oui. Redevenons sérieux. Sur ces élections européennes, est-ce qu'on peut parler d'un effet Glucksmann? Est-ce que, en additionnant les voix des écologistes, ils réussissent en général bien aux élections européennes, même si cette année, c'est pas aussi bien parti, plus les voix du Parti Socialiste façon Glucksmann, est-ce que ces gens-là peuvent faire du tort à la liste de Jean-Luc Mélenchon, éventuellement à celle de la majorité Renaissance?
Oui, moi je crois qu'effectivement c'est une carte à jouer pour Glucksmann, parce que quand même ce que disent les sondages, c'est que les têtes de liste, ça compte. C'est-à-dire que la notoriété de la tête de liste, la personnalité de la tête de liste, Jordan Bardella, Glucksmann, ce sont quand même des noms qui comptent. Et je crois qu'effectivement, l'erreur majeure de la liste Renaissance, c'est que la tête de liste n'est pas assez connue, à mon sens.
Puis désignée au dernier moment.
Et désignée au dernier moment, comme s'il fallait vraiment mettre quelqu'un. Et puis, on a vu que pour Madame Loiseau, ça n'avait pas fonctionné. Je suis pas sûre que ça fonctionne davantage. Donc oui, l'effet Glucksmann existe. Aujourd'hui, maintenant on sait, vous l'avez dit, que les électeurs se décident au dernier moment. Donc tout dépendra des derniers débats, des dernières propositions de ce camp-là. Donc,
Sophie, pour ceux qui ont loupé les feuilletons précédents, de quoi cet effet Glucksmann est-il fait?
Il est fait d'un certain jeunisme, il faut quand même le dire, d'une personnalité qui séduit, qui paraît adoucie au regard, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, dont on a besoin de gens beaucoup plus, voyez, plus lisses. Et il me semble qu'il opère un certain charme, c'est tout.
Oui,
c'est
non, aussi non, pas, simple pas que seulement. Ça. Il y a aussi la fermeté du propos.
Il y a la fermeté du propos.
Par exemple, sur l'Ukraine et sur la Russie.
Et tout le monde
et
est
aussi
séduit.
Sur le Proche-Orient, je veux dire, c'est quelqu'un qui dit les choses clairement, fermement, là où au contraire une partie de la gauche pouvait se perdre.
C'est pour ça que la guerre, c'est effectivement le critère de cette élection. Sur le fond, là, je veux dire sur le fond, le débat sur la guerre va-t-il entraîner les électeurs ou bien va-t-on remarquer qu'il y a une abstention record encore une fois? Alors, et finalement, pas de mobilisation sur ce
sujet. Sur la guerre,
sujet.
C'est sans doute le choix du président de la République, dont on peut observer qu'il compte une fois de plus sur lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a désigné qu'au dernier moment une tête de liste inconnue.
C'est dommageable.
Et donc, tout reposera sur sa capacité à lui à faire bouger les choses. Et là, moi, j'ai un doute, non pas sur la justesse de son propos, parce qu'il est sur une ligne aujourd'hui qui me paraît juste, c'est-à-dire sur l'attitude vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine, mais sur le fait qu'il n'est pas rééligible. Quand il avait en effet fait bouger les choses à l'élection européenne précédente, il était rééligible, donc on pouvait encore parier sur lui. Là, il quittera le pouvoir 2 ans plus tard. Donc, voilà, se rallier à son panache blanc, ça aurait quel sens aujourd'hui pour des électeurs qui vont penser à l'après? Et donc ça, c'est un élément de faiblesse qui explique peut-être en partie l'énorme écart qu'il y a aujourd'hui entre la liste macroniste et la liste menée par Jordan Bardella.
Qui donc est crédité de 30%, c'est-à-dire... En 1984, c'était 10%, vous vous rendez compte?
Sophie Obadia, question à l'avocate et donc à celle qui s'intéresse à l'art oratoire et à la prise de parole. Jordan Bardella a fait le choix de la rareté dans les débats avec ses concurrents, à tel point d'ailleurs qu'il n'a pas participé au premier débat des européennes, il s'est fait remplacer. Le deuxième débat, la semaine prochaine, mercredi, sur France 24, il n'ira pas non plus. Est-ce que c'est une bonne façon de gérer sa popularité et de l'économiser?
Sans doute à court terme. Enfin, c'est très dommageable pour le fond des débats. C'est anormal de se défiler cette sorte. Donc, est-ce que l'éloquence, c'est se taire? Non. Je veux dire non.
Vous êtes l'année l'autre beaucoup trop jeune, mais dans l'excellent film de Raymond Depardon sur la campagne de Giscard.
Bon, on l'a tous vu quand même.
Et oui, il y a une séquence absolument éblouissante où Giscard réunit ses conseillers. On est entre les deux tours et Giscard commence la discussion en disant « Bon, écoutez, au point où nous en sommes, compte tenu de l'opinion aujourd'hui, il ne faut plus rien dire. Donc, je vous en prie, ne dites plus rien. » Ben, c'est Bardella, compte tenu de son niveau où il est, il ne veut surtout plus rien dire pour ne pas risquer de perdre quelques intentions de vote que ce soit.
Alors, je le disais, hein, il est sûr de lui. Il va peut-être, il a commencé certainement à surfer sur ce qui s'est passé à Montpellier. Samara, 14 ans, on en a parlé hier, on en a reparlé ce matin. Samara, 14 ans, collégienne, rouée de coups non loin de la sortie de son collège. Enquête administrative, Nicole Belloubet a annoncé que son bras ne tremblera pas. Ceci est intervenu moins d'une semaine après l'annonce par la même ministre. La semaine dernière, c'était vendredi, de la création d'une force de sécurité mobile scolaire. Colère opérationnelle à la rentrée. Alors, à l'origine de l'agression, et c'est là que les choses se corsent, il y aurait un conflit religieux avec une camarade qui aurait reproché à Samara son style vestimentaire. Mais la lecture, par exemple, du Parisien ce matin, qui consacre à cette affaire une double page, nous parle aussi de harcèlement sur les réseaux sociaux de façon, j'allais dire, classique. Ça n'est jamais classique. La jeune fille aurait aussi posté des photos de camarades avec des oreilles de lapin. Enfin bon, les choses sont pas aussi claires sur la communauté de l'agression qu'on ne veut bien nous le dire. Donc, gare à l'emballement, il faut être très prudent là-dessus. Il y a aussi cette agression très grave aussi à Viry-Châtillon hier, d'un jeune homme cette fois. On est dans une séquence où, là aussi, il peut y avoir emballement sur la dimension religieuse de ces agressions, sur le facteur religieux, et en même temps, on est face à une violence scolaire qui, là, est inévitable, indubitable, incontestable.
Oui, vous avez raison, David. Il ne s'agit pas du tout de fuir le débat de fond sur le communautarisme délétère qui peut saisir les jeunes gens en France, pas du tout. Mais soyons très prudents, parce qu'au départ, dans cette affaire, il y a 2 jours, on parlait de 20 agresseurs, et aujourd'hui, ce sont 3 seulement qui ont été placés en garde à vue. On parlait de jeunes hommes qui l'attendaient à la sortie. En réalité, on s'est aperçu que c'était une jeune fille qui avait été particulièrement violente et qui avait appelé à la rescousse un groupe de jeunes garçons. On parle de harcèlement scolaire, mais j'observe, sauf si ça a été modifié ce matin, que le parquet de Montpellier n'a pas ouvert l'affaire sur ce fondement, à savoir le harcèlement. Donc il y a beaucoup de zones de flou. Je crois que sa maman est allée beaucoup dans les médias c'est ce qu'on appelle une bonne cliente, pour expliquer ce qu'elle savait et ce qu'elle ne savait pas, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas compris que sa fille était harcelée à ce point, disait-elle, qu'elle avait demandé une protection, et je pense que c'est cela qui sera intéressant à voir aussi si, quand Mme Belloubet aura les conclusions de cette enquête, savoir si effectivement le collège a failli, parce que semble-t-il, elle est sortie alors qu'elle ne devait pas sortir. Autant de questions qui méritent d'être prudents, parce que vous vous souvenez de l'affaire de Crépole, hein, elle n'est pas terminée.
Je me souviens de l'affaire de Crépole,
et Sophie, son emballement.
Sophie, je me souviens de l'affaire de Crépole, et je me souviens aussi, l'affaire de Crépole, c'est cette fête de village, oui, perturbée par des jeunes gens. On a immédiatement dit, attention, ils viennent se payer des petits blancs, etc. Et puis bon, l'enquête a montré que c'était beaucoup plus compliqué que cela. Pourtant, ce qui s'est passé dans ce collège de Montpellier m'a au départ rappelé l'affaire Mila,
figurez-vous. Oui, vous avez raison.
Parce que, alors, sur l'affaire Mila, ça s'était passé sur Instagram et Internet. Hein, Mila avait envoyé paître des gens qui lui disaient que elle était une femme qui se conformait pas à certains principes religieux. Et là, pour le coup, pour certains, elle avait blasphémé. Elle avait dit ce qu'elle pensait, tout simplement. Elle a eu une véritable fatwa numérique lancée sur elle-même. Et au départ de cette affaire de Montpellier, j'ai pensé à Mila, je me suis dit, ça y est, ce qui se passe sur Internet est en train d'arriver dans la vie réelle. C'est-à-dire que les lynchages d'Internet deviennent des lynchages dans la rue. Il faut quand même être prudent. Votre opinion sur ce sujet,
Jean-Marie Colombani. Je souscris à tout ce que vous venez de dire, l'un et l'autre, parce que je pense qu'il faut en effet... Vous avez prononcé le mot qui convient, c'est emballement. On est toujours exposé à une forme d'emballement dans ces événements. Regardez, il y a aussi cette affaire du jeune de Viry-Châtillon, 15 ans, qui est tabassé à mort. On ne sait pas, qui est entre la vie et la mort, et qui est aussi une opération dont on ne sait pas ni les tenants ni les aboutissants. Donc, en revanche, ça renvoie quand même tout cela à l'imprégnation du tissu social par une violence qui était déjà perceptible dans les débats politiques, qui était déjà perceptible dans la façon dont les gens se comportent les uns avec les autres, et là qui atteint des couches de la jeunesse qui sont terrifiantes. Le maire de Viry-Châtillon parlait de jeunes qui s'affrontent et qui ont entre 10 et 15 ans et qui s'affrontent jusqu'à ce que provoquer peut-être la mort de ce jeune homme. Donc c'est ça le problème, et de ce point de vue-là il y a plus vraiment, alors il y a des... À la fois, on peut pas dire que le gouvernement ne fasse rien. Renvoyer tout cela à un gouvernement, c'est absurde, parce que le gouvernement n'a pas de baguette magique dans ce domaine, et les éléments de la fermeté sont là. Quand on regarde d'ailleurs le niveau du peuplement des prisons, qui sont très largement sur, ça montre bien que les juges ne sont pas laxistes. Donc il y a beaucoup d'éléments de fermeté dans la société française. Il y a quand même cette violence qui est très difficile à maîtriser et qui est pour le coup extrêmement inquiétante.
Et le problème, Sophie, c'est qu'on ne sait pas si on doit l'analyser en prenant des facteurs qui sont dans la sphère religieuse ou dans la sphère anthropologique sur ces nouveaux comportements des jeunes gens qu'on ne comprend pas.
L'âge, l'extrême jeunesse et la participation de jeunes filles. Attention, il ne faut pas le nier, ça non plus. Hein, et la participation,
il y a aussi des jeunes filles.
Il y a une rage et une violence chez les jeunes filles, maintenant, qui se développent.
Les jeunes hommes qui n'ont plus le monopole de la violence. On va terminer avec tout autre chose, dans une toute autre humeur. Vous savez qu'on termine généralement cette séquence par un peu de musique. J'ai cherché l'anniversaire ou une date dans l'histoire de la musique classique correspondant au 5 avril. Je n'en ai pas trouvé. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un musicien bien vivant, producteur, directeur artistique de la maison Louis Vuitton. Il s'appelle Pharrell Williams, et on lui doit un hymne à la joie.